Au départ, je cherchais à parler de la désobéissance. Et donc, je me suis dit que ce serait plus intéressant de travailler non pas dans un milieu qui était un milieu dans lequel il faut absolument s'opposer pour exister, je veux dire un milieu coercitif, violent, enfermant, mais que ce serait plus intéressant de travailler sur un milieu qui, comme ça, extérieurement, une cellule familiale qui paraît positive. Et que malgré tout, même dans des structures positives, on peut être très enfermé, en fait. Mais on ne sentira pas forcément l'oppression ou la violence de ce milieu. Voilà, et ça m'intéressait aussi par rapport à nos sociétés aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des structures de sociétés, même de micro-sociétés comme les familles ou de sociétés comme des pays, qui nous donnent la sensation qu'on est libre, alors qu'en fait, dans leur structure elle-même, elles sont enfermantes. Voilà. Et donc, on a affaire à une mère qui est très aimante, mais qui finalement se trompe de façon d'aimer. Elle ne sait pas comment faire autrement, donc, et qui est dans une relation avec sa fille qui impose le oui. Voilà, ça rentre pas dans la logique de cet endroit, sinon. Mais en même temps, il y a beaucoup d'amour, mais cet amour, il est à l'endroit où il faut dire oui. Voilà. Et c'est comment cette petite fille va un jour dire non et comment elle va s'émanciper et devenir elle-même un sujet pensant, et comment la mère va enfin devoir prendre en considération sa petite fille, non pas comme un objet faisant partie de son univers, même si elle pense qu'elle est extrêmement libératrice comme mère, très aimante, très bio, très machin, mais n'empêche que, au fond, il y a quelque chose dans l'altérité, dans le rapport à l'autre, qui n'est donc pas soi, qui peut avoir des ressentis, des goûts différents, des pensées différentes. Il y a quelque chose dans l'autre comme sujet que la mère n'a pas intégré dans sa relation à son enfant. Et donc, l'émancipation de sa petite fille, il va falloir qu'elle la traverse et qu'elle apprenne que aimer, c'est aimer celui qui ne vous ressemble pas forcément, quoi, dont son enfant. Voilà.
Alors cette petite fille qui effectivement au début de la pièce répond toujours oui à sa maman, elle a une relation très forte avec sa grand-mère et au moment où celle-ci disparaît, c'est à ce moment-là qu'elle va commencer à dire non. Et alors ce que je me suis aperçue, c'est que au moment où elle dit non et où elle s'énerve contre sa mère, c'est là où il y a vraiment beaucoup de réactions des enfants dans la salle. Ils rient souvent, donc je voulais savoir comment vous le comprenez ça.
Bah, j'ai l'impression que c'est très libérateur pour eux aussi. C'est-à-dire qu'ils doivent ressentir la violence de cette relation à la mère et en même temps, ils ne peuvent pas la formuler, la conscientiser, puisque rien n'est violent extérieurement tel qu'on imagine ce qu'est la violence. C'est-à-dire que la mère ne frappe pas du tout, elle n'est pas méchante, elle n'arrête pas de dire à sa fille qu'elle l'aime, elle lui fait des bisous, elle lui fait tout bien, elle lui prépare à manger, enfin vraiment. C'est la mère parfaite. D'ailleurs, c'est parce qu'elle veut tellement être parfaite qu'elle loupe complètement la relation avec sa fille. Parce que du coup, elle les enferme toutes les deux dans des schémas qui ne peuvent pas exister. Et donc, je pense que les enfants ressentent ça très fortement, très violemment. Parce que la mère est toujours en état de tension, évidemment, puisqu'elle ne peut pas être en accord avec elle-même non plus. Et quand la petite fille dit enfin non, la première fois, on sent une vague libératoire dans la salle. Les gamins font « Ah, enfin !» Et hier, la deuxième fois qu'elle a redit non, il y a un gamin dans la salle qui a fait « Oui !» Et ça, c'était vraiment très drôle. Ça racontait tout, en fait, sur ce « Oh, quel bonheur !»« Ah oui, elle l'a redit, super !» !»« Elle arrive à se libérer et tout, quoi. »
Alors, c'est aussi une affaire de transmission, voilà, entre mère, fille, petite fille. Ça se passe entre filles. Est-ce que ça aurait pu se transposer au niveau des hommes, peut-être aussi? Ou c'était important que ce soit des filles?
Oui, je pense que ça aurait pu se transposer entre une mère et son petit garçon. Je pense que des pères peuvent être comme ça aussi. Après, il y a une telle pression sur les mères, sur le fait d'être une mère parfaite, que les hommes, quand même, reçoivent moins. Dire bon, un père peut être un peu défaillant, un peu, c'est moins perçu de manière grave, je veux dire par là que c'est plutôt l'endroit un peu plus du désordre, de celui qui, ça, il y a des pères terribles, hein, d'une autorité terrible complètement. Mais là, ce que traverse la mère, en fait, c'est vraiment le fait d'être enfermée dans une espèce de volonté d'être une mère parfaite, l'inverse de sa propre mère. Donc sa propre mère a été défaillante, était pas là, était dans les cabarets, les machins, etc. Donc elle s'est dit, si j'ai un enfant, je vais être une mère parfaite, quoi. Et c'est ce qu'elle essaye de faire. Et donc forcément, elle est complètement à côté de la plaque en faisant ça. Et cette pression sur les mères, sur le fait qu'il faut être une mère parfaite, nos sociétés sont épouvantables avec ça. Et je pense qu'il y a une grosse partie des dépressions, notamment après la naissance des enfants, des femmes. Il y a 25% de femmes qui font une déprime, une dépression sévère quand même postpartum. homme. Je pense que c'est très lié à ça. On attend tellement de ressentir des choses incroyables, de savoir très bien faire, d'un seul coup d'être illuminé par la grâce de la maternité, alors que c'est pas vrai, hein, c'est le bordel comme pour n'importe quoi. Il faut découvrir l'autre, il faut, voilà. Que je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui ne résistent pas à la pression, quoi, parce qu'elles ne se sentent pas à la hauteur. Et en fait, on n'est jamais à la hauteur d'une projection idéale complètement enfermante que la société vous met dessus. Et l'endroit de la projection sur la maternité est une des choses les plus terribles dans toute société humaine, parce que déjà, ça opprime les femmes complètement. Et puis, c'est aussi la clé de toutes les dominations sur les femmes. Si tu es une mère parfaite, tu réussis ta vie, tu n'as pas besoin de t'emmerder à développer des choses dans ta vie. L'important, c'est que tu réussisses parfaitement ta maternité. Il y a un rapport sacré avec ça, l'instinct maternel, etc. Enfin bon, c'est, tout ça, c'est des conneries.
Et effectivement, dans la pièce, la mère, à la fois, elle travaille, elle fait un métier très difficile puisqu'elle est infirmière, elle travaille beaucoup, elle doit élever sa fille. Et en même temps, elle a décidé d'être à l'opposé de sa propre mère. Et finalement, effectivement, comme le dit sa fille à la fin, elle a quand même reproduit la même chose que sa mère, puisque comme elle, elle a élevé sa fille toute seule. Et on a l'impression aussi que finalement, la petite fille va peut-être également faire la même chose. Il y a une histoire d'opposition au départ, mais il y a quand même une transmission ou quelque chose, sans qu'on s'en rende compte, on finit quand même toujours par ressembler un peu à ses parents.
Je pense surtout que quand on est dans un rapport d'opposition binaire, je suis pas comme, je suis absolument l'inverse, on est exactement dans une forme d'identification. C'est-à-dire que si on est dans une relation binaire avec les choses, je suis pas contre, je suis pour, je suis pas pour, je suis contre, finalement on continue à être dans cette relation exclusive avec ces choses-là. Donc à partir du moment où elle dit, moi je serai jamais comme ma mère, je vais tout faire autrement qu'elle, évidemment elle ne fait qu'être dans une reproduction, même si c'est une reproduction inversée. Et que du coup, au fond, elle va reproduire les mêmes choses, même si c'est dans une situation totalement inversée. Donc je pense que à partir du moment où on essaye de s'ériger soi-même dans sa vie contre quelque chose, en disant je vais échapper à ce modèle-là, évidemment on ne fait que rentrer dans le modèle. C'est comme dans la mythologie grecque, le rôle des oracles. On essaye d'échapper à l'oracle, c'est ce que fait Édipe, et il ne fait que reproduire ce que l'oracle lui a prédit. Donc c'est toujours la contradiction de ça, en fait, quoi. Après, je suis pas sûre qu'à partir du moment où les choses sont un peu réfléchi, un peu conscientisé et un peu... on fasse pas des pas de côté. Après, on n'arrête pas de reproduire toujours les mêmes choses. Mais quand même, je pense que la petite fille, elle, vu le parcours qu'elle fait et le fait qu'elle arrive à faire un pas de côté en disant non, mais en même temps en disant « je vais quand même revenir vivre avec ma mère parce que je l'aime et qu'on s'aime et que maintenant, on va essayer de faire les choses autrement. » Enfin, elle dit pas ça de manière conscientisée, mais c'est ce qu'elle fait. Elle est vraiment très sage, cette petite fille, au fond. Enfin, elle est très intelligente par rapport à ça. Et donc, je me dis « elle est bien partie quand même pour certainement réussir, parce que justement elle a réussi à s'émanciper de quelque chose et donc aussi d'une forme de reproduction par ce non. Elle dit non à sa mère, mais elle dit non à énormément de choses. En disant non à sa mère, elle dit non aussi à la reproduction de quelque chose. Et donc je pense qu'elle a des chances de, évidemment en tâtonnant comme nous tous, mais de s'inventer sa vie quand même, quoi.
Ça tord un peu le coup à la fatalité ?
Ah bah oui, sinon moi je créerais pas de théâtre. Hein. Moi ce que je trouve beau, c'est comment, à travers, évidemment c'est très compliqué, des fois c'est des petits pas de fourmis, mais comment ces petits pas de fourmis nous permettent d'inventer aussi nos propres vies, quoi.
Oui, puis d'ailleurs vous tordez le cou aussi au conte du petit chaperon rouge, et aussi la fable de la cigale et la fourmi, j'ai noté.
oui, je ne suis pas une grande fan. Enfin, je préfère les poètes romantiques, voilà. Puis bon, je ne suis pas une grande fan des fables. En même temps, j'adore ça, puisque le théâtre, c'est une fable, en fait. Et puis ça m'amusait beaucoup de cigale et la fourmi, le nombre de fois on a étudié ce truc, et j'ai jamais entendu un prof dire à un moment donné que vraiment, la fourmi n'était qu'une sale aigrie, une bêcheuse. Et parce que moi, ça raconte aussi la question de l'artiste, hein. Il y a plein de gens qui disent, les artistes, ils font que chanter du matin au soir, laissons-les crever quand l'hiver arrive, quoi. C'est la fourmi, c'est vraiment le système ultra-libéral capitaliste face aux artistes altimbanques. Enfin, moi, je peux l'interpréter comme ça aussi, quoi. Donc, ça ou la petite bourgeoisie qui dit, les artistes, c'est des parasites qui foutent rien, laissons-les crever, l'intermittence, c'est pas bon. Pour moi, la cigale et la fourmi, telle que je la raconte dans la pièce, ce serait presque une défense de l'intermittence, quoi. Voilà.
On n'a pas parlé du loup, c'est un jeune de banlieue, on peut imaginer ça puisqu'il est dans une cité, et donc effectivement la mère a peur que sa fille puisse rencontrer des jeunes entre guillemets dangereux, et bien finalement elle va finir par le rencontrer et on se rend compte qu'il n'est pas si dangereux que ça et qu'il est peut-être même aussi perdu que la fille.
Oui, en même temps, il y a quelques indices qui nous montrent que c'est un gamin un peu paumé et lui-même en rupture de ban. Déjà, sa réaction très violente par rapport aux mères. Il n'arrête pas de dire les mères, c'est toutes des cinglées. Les mères, elles tombent amoureuses de n'importe qui, etc. Donc moi, je me suis raconté que c'était un gamin dont la mère s'était remaquée avec un beau-père violent, qui était dans une relation violente avec ce gamin, et que ça s'était mal passé, et qu'il s'était barré, et qu'il est à peine majeur, il est peut-être même pas encore majeur, je m'étais dit qu'il avait 17 ans, quelque chose comme ça. Et que du coup, s'il était vraiment en rupture de ban, mais il est perdu. Et je pense qu'il y a une histoire de désamour aussi chez lui, enfin, de problèmes d'amour au sein de la famille. Et il est à la rue, en fait, hein, tout simplement. Il n'arrête pas de dire « je voyage ». Elle lui dit « mais à chaque fois que je te vois là », il dit « bah ouais, mais à chaque fois, c'est parce que je voyage par ici, mais sinon je voyage ». On voit bien qu'en fait, il est paumé, il dort dehors en pleine neige. Enfin. Et c'est pour ça que lui, en fait, il va développer un rapport affectif extrêmement fort avec la petite fille. Et qu'il la prend pour sa petite sœur au bout d'un moment. Ça m'a toujours beaucoup touchée, ça. Moi, j'ai travaillé beaucoup avec des jeunes de banlieue, comme on dit, ou des jeunes qui ont un côté comme ça, un peu rentre-dedans au départ, un peu « ouais, vas-y, quoi, laisse-moi, machin, etc. Enfin, » Et en fait, c'est des gamins, quand le premier moment est passé, quand il y a un rapport de confiance, de respect mutuel qui s'instaure, mais c'est extrêmement fort sur le plan affectif, sur le plan... humain, tout simplement, quoi. Et donc, moi, ça me bouleverse qu'il y ait des gens dont on pense que c'est des sales cons, des méchants, etc., alors que c'est juste... c'est peut-être un peu de maladresse au départ. Je dis pas que tout le monde est un saint, attention, hein. Mais je dis que moi, les mômes que j'ai rencontrés en banlieue, franchement, c'est pas les pires, hein. Loin de là, quoi.
Donc, c'est un conte. Donc, on pourrait penser que c'est une pièce peut-être plus pour les enfants, mais finalement, c'est ce qu'on dit, c'est que ça s'adresse aux adultes qui s'y reconnaissent autant que les enfants.
Oui, c'est un conte. Après, les contes, au départ, c'est pas du tout pour enfants. Hein. Au départ, au Moyen-Âge et tout, les contes, c'est des contes initiatiques pour tous les âges, en fait. Hein. Ouais, c'est vraiment des transmissions aussi de culture archaïque, les contes. Le mythe de la forêt, par exemple, le fait qu'à chaque fois, un enfant... va traverser une forêt, que ce soit Blanche-Neige, le petit chaperon rouge, le petit poussé, et que c'est la traversée de la forêt qui l'émancipe. Ça, par exemple, c'est hérité de très vieilles traditions archaïques qu'on a oubliées, mais qu'on retrouve dans toutes les civilisations primitives, qui sont le rite initiatique de l'enfant qui, au moment de devenir adulte, doit passer plusieurs jours dans la forêt, garçon ou fille, et quand il sort de la forêt, il est devenu adulte. Et là, il a une nouvelle place au sein du clan, etc. Donc c'est ça qui est passionnant dans les contes, c'est pour ça que je pense qu'ils nous parlent aussi puissamment comme les mythes, parce que ce sont des mythes, parce qu'ils trimballent de la mythologie, donc de la construction de nos mémoires archaïques et de nos constructions de représentations mentales aussi et collectives, quoi. Donc pour moi, c'est pas du tout pour enfants. Après, la façon dont on en a fait, que ce soit Walt Disney ou Perrault ou Grimm, on en a fait des contes au début pour les aristos qui s'amusent de ces petites choses un peu naïves du peuple, alors que dans tous ces contes-là, il y a au départ des choses bien plus complexes et bien plus dures. D'ailleurs, la plupart des contes sont très violents parce qu'ils trimballent toutes ces choses-là. Et donc, c'est pour ça qu'on se racontait les contes. C'est parce qu'on se passait des principes d'émancipation, des signes très forts dont on avait parfois perdu la trace, mais en tout cas qui continuaient à parler à nos mémoires inconscientes collectives, quoi. Donc, des mecs qui ont réécrit ça, comme Perrault, comme Grimm ou comme Walt Disney, ont fait énormément de mal à ça, puisque, évidemment, du coup, on a perdu ces endroits-là de puissance de transmission. Et il y avait des contes qui étaient vraiment le conte du petit chaperon rouge, qui ne s'appelle pas comme ça, qui s'appelle le conte de la mère grand. C'est marrant parce que Perrault, il a rajouté une chose, c'est le petit chaperon rouge. Or, c'est l'histoire d'une petite fille pubère. Donc, qui commence à avoir ses règles. Et donc, il a enlevé plein de choses sur le sang, parce qu'il y a beaucoup de choses terribles dans le conte de la mère grand. Mais il lui a mis un petit chaperon rouge. Donc, inconsciemment, il a dû remettre l'endroit des règles du sang quelque part en disant bon. Mais en tout cas, ce conte-là, il est extrêmement violent. Le loup fait bouffer à la petite fille sa grand-mère quand même. Hein. Il lui fait boire son sang, il lui fait manger la grand-mère. Mais jamais le loup ne dévore la petite fille à la fin. Il essaye, mais elle est bien plus maligne que lui. Et elle se sauve de là. Et même dans certains contes, elle finit par avoir sa peau, quoi. Donc pour moi, ce n'est pas une pièce pour les enfants. C'est une pièce pour tout le monde à partir de 7 ans. Et c'est pour ça que je me suis attachée aussi fortement au personnage de la petite fille, mais aussi au personnage de la mère, de la grand-mère et du loup. Et d'ailleurs, on le voit en fonction des publics qui viennent, les gens s'identifient plus à l'un ou à l'autre. Il y a beaucoup de mères qui ont été extrêmement touchées très fortement par le parcours de la mère, parce qu'elles y ont retrouvé des choses, forcément, des endroits de fragilité extrême, parce qu'on fait ce qu'on peut, hein. Il n'y a pas de jugement sur elle ou sur la grand-mère, le rapport à la mort aussi, le fait qu'elle choisisse de mourir, la grand-mère. Pour moi, c'était vraiment aussi un endroit très fort par rapport à ça, sur la question aussi de choisir sa mort ou pas. Enfin, donc voilà, donc c'est tout ça que ça aborde.